Okay. Tu m'entends-tu comme faut? Bon, parfait. Ouais, c'est ça. Pourquoi il fonctionne pas bien? Ah. OK. Oui, oh, ouais, OK. Dieu donne ça, bien. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. On est lundi, le 30 novembre de l'année de grâce 2020. Et on va prier par la grâce de Dieu, justement, pour remettre entre les mains de notre Dieu ce temps d'étude que nous allons prendre. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté. Ta miséricorde, ô Dieu. Le soin, Seigneur, que tu prends de tous et chacun. Seigneur, que cette parole qu'on va entendre, Seigneur, que cette étude que nous avons amorcée il y a 2 semaines puisse nous amener, Seigneur, à mieux comprendre, à mieux connaître, à mieux servir, à être de meilleures brebis, Seigneur, dans l'Église. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de s'enrichir à travers ta parole, de bonifier nos vies, Seigneur, et que ta parole, Seigneur, puisse transformer ce que nous sommes en ce que tu souhaites, ô Dieu. Ce que nous sommes, Seigneur, en ce que tu désires. Je remets, Seigneur, tous les auditeurs ainsi que moi-même entre tes mains, te demandant miséricorde, Seigneur, pour eux comme pour moi, Seigneur, car nous appuyons sur toi pour l'étude de ta parole. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, soyez bénis. On est toujours naturellement dans notre étude des Actes des apôtres. Je vous donne un peu en introduction, très, très, très rapidement, la matière qu'on a vu, c'est-à-dire on a fait un peu l'armature de ce que allait être, si vous voulez, ces mois d'études qui sont devant nous, que nous avons commencé, et on a fait la division du livre, on avait regardé plein de choses. Et une chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est que la semaine dernière, on avait regardé comment les apôtres s'y étaient pris pour remplacer Judas Iscariote, pour rester au nombre de 12. On a vu pourquoi il voulait rester au nombre de 12, les tenants, les différentes écoles de pensée, les tenants, les aboutissants du pourquoi et on a vu le comment. Comment ils l'ont fait, comment ils ont choisi. Et je vous avais dit la semaine dernière, et mon intro, elle ne sera pas longue à ce niveau-là, je vous avais dit la semaine dernière que c'est la seule fois où on trouve dans toutes les Actes des apôtres, dans les Épîtres, et ainsi de suite, c'est le seul endroit où les disciples font ce qu'on appellerait, nous, un pile ou face, où ils ont tiré au hasard. Ils n'ont pas fait pile ou face là, avec un denier, mais comment ils choisissaient de remplacer Judas. Ils ont pris une méthode qui leur était connue, juive, tout en priant et en disant, Seigneur, choisis lequel des deux tu désires. Et je vous avais expliqué un peu le fonctionnement de cette, pour ceux qui veulent s'y référer, vous retournerez à l'étude de la semaine dernière. Et on a regardé un peu comment ils s'y prenaient et comment ils avaient fait le choix du nouveau croyant qui serait associé au groupe des 12. Pourquoi que je vous le ramène, pourquoi que je vous le rappelle et pourquoi je vous redis qu'après la venue du Saint-Esprit, ils n'ont plus jamais utilisé cette méthodologie, cette méthode pour prendre une décision, quelle qu'elle soit. Mais cette communauté-là est devenue la communauté du Saint-Esprit et ils s'y ont pris d'une autre façon. Je vous le ramène parce que on va parler ce soir du baptême du Saint-Esprit, mais on n'en parlera pas sous l'angle sous lequel vous êtes habitués de n'entendre parler pour la plupart d'entre vous. Donc, on va regarder ça plutôt d'un autre angle. Et c'est pour ça que je vous rappelais qu'ils ont pris cette décision-là de choisir un autre apôtre. Ils l'ont pris en tirant. entre parenthèses, au hasard, bien qu'ayant prié et ayant demandé la volonté de Dieu, et ensuite de ça, ayant pris deux cailloux, les mettre dans un jar, et le caillou qui était éjecté était le bon caillou, selon eux, la volonté de Dieu. Après la réception du Saint-Esprit, cette pratique-là n'a plus jamais eu lieu. N'a plus jamais eu lieu. Et je sais que dans des cercles chrétiens, on ne met pas des noms dans des jars pour faire tourner les cailloux jusqu'à temps qu'un des cailloux soit éjecté. Mais je sais que des fois, la méthode avec laquelle on prend des décisions, permettez-moi, mais elle est douteuse. Elle est douteuse. Ça s'apparente bien souvent à des méthodes, voire, je dirais pas occultes, mais voire superstitieuses. Et on va en parler plus tard au cours de nos différentes interventions, quand on a des décisions à prendre. Il faut faire attention de ne pas avoir une foi superstitieuse. Et l'Esprit de Dieu nous a été donné pour nous diriger, pour nous guider. Ceci étant dit, on rentre dans notre matière. En introduction, si je donnerais un titre à cette intervention-là de ce soir, ce serait l'Église revêtue de puissance, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit. Tantôt, on va prendre les versets concordants, mais j'aimerais rappeler que Dieu n'a pas donné le Saint-Esprit en disant, ah, donnons-leur un petit cadeau vu que je suis parti. C'était un besoin, c'était nécessaire. La mission qui était issue à l'Église était impossible au petit nombre qu'ils étaient. Je m'explique. Quand on pense que dans ce temps-là, le nombre de chrétiens, juste face aux Juifs inconvertis, et juste dans Jérusalem, était environ de 1 pour 30 000. Si on y ajoute la population des gentils, des prosélytes, eh bien, la responsabilité était décuplée, multipliée, et la réalisation de cette mission-là de Matthieu chapitre 28, verset 19, allez, par toutes les nations, faites des disciples, était voire humainement hors de portée, impossible. Alors, il fallait que le Seigneur envoie un aide. Il fallait que le Seigneur envoie son esprit pour soutenir l'Église, pour lui donner la puissance, pour rendre la chose possible. Pour rendre la chose possible, parce que humainement, la mission l'était impossible. Donc, la mission ne pouvait être que réalisée que du point de vue divin et non du point de vue humain. Donc, le point de départ de notre étude de ce soir, c'est cette pensée-là. Dieu a envoyé l'Esprit, et je vous ai dit qu'on prendrait un peu le baptême ou être rempli de l'Esprit d'une autre facette. Peut-être pas celle à laquelle vous êtes accoutumé. Je le fais pour le besoin de l'étude qu'on est en train de regarder. Et pour cela, permettez-moi de vous amener un peu à la position, si vous voulez, du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Je viens de vous dire que l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a été donné, va être envoyé aux apôtres, je vous dis en introduction, parce que la mission était humainement impossible à réaliser. Elle ne l'était que du point de vue divin. Possible à réaliser, mais du point de vue humain, c'est impossible. Donc, dans l'Ancien Testament, et je vous ramène un peu plus loin pour mieux prendre le saut, pour bien comprendre la portée de la réception du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, on jette un coup d'œil vers l'Ancien Testament. On va faire un bref résumé, très, très bref résumé, si on peut dire, de la doctrine du Saint-Esprit. À cette époque-là, dans l'Ancien Testament. Mais c'est important qu'on en fasse un léger résumé, mais qu'on en fasse quand même un résumé, parce qu'il est important en regard du contexte de ce qu'on est en train d'étudier là, dans l'événement de la Pentecôte. Donc, important à noter que le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament est intimement lié à la personnalité ou à la personne de l'Esprit de l'Éternel, qui renforce, soit dit en passant. Et il y a des versets qu'on pourrait prendre. Je vous en donnerai tantôt peut-être quelques-uns qui renforcent l'idée du Dieu unique. On pourrait dire de la théorie du Dieu unique et non pas de trois dieux égaux existants en une entité, disons ça comme ça. Et pour ceux qui se poseraient plus de questions, j'ai déjà donné une étude, vous pourrez vous y référer, sur le Dieu unique, le seul Dieu. Et dans l'Ancien Testament, l'Éternel, ou Père de la nation, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament sous la forme du Fils, c'est l'Esprit qu'on retrouve, le même Esprit qui, dans l'Ancien Testament, on appelait ça l'ange de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, on lui donnait plusieurs attributs selon la vision qu'on en avait ou souvent on le regardait par rapport à son action dans un moment donné. Mais n'oubliez pas une chose, l'Esprit était donné dans ce temps-là à une personne en particulier, à une occasion particulière. Il n'était pas répandu comme lorsqu'on va le voir tantôt dans Actes des Apôtres. Ça va être la première fois où il est répandu de cette façon-là. Dans ces temps-là, l'Esprit venait sur un prophète. D'ailleurs, les gens, quand ils voulaient consulter Dieu, ne se mettaient pas en prière pour consulter Dieu. Ils disaient « Allons vers le prophète » ou même ils disaient « Allons vers le voyant ». Ils se rendaient vers Élisée, ils se rendaient vers Élie, ils se rendaient vers le prophète et ils consultaient Dieu à travers un homme. Parce que l'Esprit n'était pas répandu comme on le trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, il se passe des choses, vous vous mettez à genoux et l'Esprit de Dieu est tout suffisant pour nous diriger avec sa parole, naturellement. Si vous recevez quelque chose, vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu et ça vient contrecarrer ce que la parole de Dieu dit, il y a un sérieux doute à avoir sur ce que vous avez reçu. L'Esprit de Dieu est toujours en accord avec la parole de Dieu. Ceci étant dit, tournez dans Actes chapitre 16, verset 7, et on voit dans le Nouveau Testament aussi que l'Esprit ou le Saint-Esprit est lié à la personnalité de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une seule et même personne. Il y a un Dieu unique qui s'est manifesté en trois dispensations, on va dire ça comme ça, ou de trois façons différentes. Il s'est révélé à l'humanité de trois façons différentes. Aujourd'hui, on vit sous la dispensation du Saint-Esprit qu'on appelle. Mais, soyons bien, bien clairs, comme vous pouvez porter trois titres, jouer trois rôles différents, moi, je suis le père de mes enfants, je suis l'époux de ma femme, c'est trois titres que j'ai, je suis l'époux de mon épouse, je suis le parent de mes enfants, je suis le père de mes enfants, je suis pasteur dans l'église, c'est trois titres, mais il n'y a pas trois personnes, vous avez une personne. C'est la même personne qui remplit trois fonctions différentes dans sa vie. Dieu s'est manifesté, là on parle d'être dispensationaliste, c'est-à-dire Dieu s'est révélé dans trois dispensations différentes de trois façons distinctes, dont la dispensation dans laquelle vous vivez, sous la dispensation où Jésus n'a pas pris son déjeuner physiquement avec vous aujourd'hui, comme il faisait avec ses disciples. Mais Jésus était avec moi ce matin. Mais pas ce matin quand j'ai déjeuné, je n'ai pas déjeuné, mais quand j'ai mangé cet après-midi, Jésus était avec moi. Quand j'ai prié, je sais par la foi que Jésus était avec moi, soyons clairs, via son esprit. Dans Actes 16, verset 7, la parole de Dieu nous dit, « Après être arrivé près de la Mésie, nous disposons à entrer en Béthanie, mais l'esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Un verset avant, on nous dit que le Saint-Esprit ne permet pas d'entrer à un endroit, et à ce verset-là, on associe le Saint-Esprit, à l'Esprit de Jésus, nous ne le permet pas. Je ne veux pas rentrer trop à profond dans la doctrine du Dieu unique. On pourra en regarder bien des facettes. Quand Jésus va dire « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous », il ne dit pas que c'est un autre esprit. Si Jésus a un esprit propre, on a l'esprit de Jésus ici, et il y a le Saint-Esprit aussi, qui est une autre personne de la Trinité, et il y a le Père qui est aussi esprit, bon, on se trouve avec un problème. Là. On a Jésus, on a l'esprit de Jésus, on a le Saint-Esprit, on a le Père, on est rendu minimum à 4 personnes. Soyons bien nets. Et je ne veux pas pousser là-dedans, ce n'est pas le but recherché ici, mais Dieu est un esprit, ses activités dans l'Ancien Testament. Là, je vous ai montré ici l'esprit de Jésus qui ne leur permet pas d'entrer, qui est lié à ce qu'on nous on appelle la manifestation du Saint-Esprit. Ses activités dans l'Ancien Testament étaient faites soit par des anges qui servaient de messagers, soit par des prophètes, comme je vous ai dit, quand les gens disaient « Allons à l'homme de Dieu », son esprit se mouvait au-dessus de l'abîme que la parole de Dieu dit dans la Genèse. Dans Genèse 1, 2, le mot hébreu pour son esprit qui se mouvait au-dessus de l'abîme ou au-dessus des eaux. Et quand on nous explique que la terre était « tohu-bohu » dans l'original, c'est le même terme qui est employé pour le terme « souffle ». Ici, l'Esprit de Dieu, son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le mot hébreu qui signifie « souffle » ou « vent » ou « souffle violent ». Vous le retrouvez aussi dans Jean chapitre 3, verset 5, où Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne dé d'eau et d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, l'esprit de Christ habite en nous. Mais vous avez votre propre esprit. Vous êtes tripartite, on peut dire comme ça. Ça forme un seul individu. Vous avez un corps, un âme, un esprit. Vous n'êtes pas trois personnes pour ça. Votre corps, pas difficile à le distinguer. On le voit comme il faut. Votre âme, je vous dirais pour dissocier un peu, là, c'est le siège. Ce n'est pas que cela, là. Mais c'est le siège de vos émotions et ainsi de suite. Et votre esprit, c'est ce qui vous permet de communier avec Dieu, de vous repérer dans l'espace-temps. Je m'explique, c'est-à-dire si vous avez un chat, un chien à la maison, une perruche, quelque animal que vous pouvez avoir, un animal, un corps, un âme, c'est pour ça qu'il peut ressentir la douleur, un âme, mais il n'y a pas d'esprit, il y a un instinct, il n'y a pas d'esprit. Si tu dis à Pitou ou à Minou, on était chez le vétérinaire, hein, puis le vétérinaire dit que tu as la grosse bosse que tu as dans le cou, là, c'est parce qu'il te reste 4-5 jours à vivre, puis tu vas mourir, mon petit Fido, soyons clairs. Si tu dis ça avec la même intonation avec laquelle tu lui parles pour lui donner une récompense, il va être bien content pareil. Parce qu'il ne rend pas compte de ce que tu es en train de lui dire, parce qu'il ne peut pas. Il n'y a pas cette fonction-là de se situer par rapport à certains événements parce que c'est un animal, soyons clairs. Donc, nous, étant humains, on a cette fonction-là, on est capable de se repérer dans le temps. Moi, exemple, normalement, j'ai 61 ans, il y a plus de temps derrière moi qu'il reste en avant. OK? Soyons clairs. On le réalise comme il faut et ainsi de suite. Parce qu'on est capable de se situer. Et notre esprit nous sert aussi à communier avec Dieu, à rentrer en communion avec Dieu, de notre esprit à son esprit. D'accord? La chose étant ainsi, Jésus invite Nicodème ici à naître d'eau et à naître d'esprit. C'est-à-dire, toute personne inconvertie, son esprit en elle est mort par rapport à Dieu. C'est-à-dire qu'il est capable de se repérer, il est capable de faire certaines choses avec son esprit, mais il n'y a pas la vie éternelle dans son esprit. Et l'invitation qui était faite à Nicodème, c'est de saisir la vie éternelle. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit qu'on est passé de la mort à la vie. Spirituellement, dans notre esprit, on est à mort. Quand on a accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel, On est passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Même déclaration que Jésus fait à Marie, il dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui meurt en fait en moi ne mourra jamais. Celui qui vit en moi ne mourra pas. Son corps va mourir, mais lui ne mourra pas. L'essence de sa personne va rester toujours en vie. Donc, quels sont les attributs qu'on va regarder? Là, je vous ai fait une mise en place un peu du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, j'y reviens, des hommes étaient qualifiés pour plein de choses par l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas répandu de façon générale. Si vous tournez dans Genèse chapitre 35, et je vais un peu plus rapidement, Genèse chapitre 35, versets 31 à 33, des hommes étaient même remplis de talent pour produire des choses par l'Esprit de Dieu. Ça peut être de talent pour composer des cantiques, pour faire des études bibliques, mais même aussi, je vous donne un exemple, ce n'est pas mon apanage à moi, je n'ai pas beaucoup d'habiletés manuelles. Mais si Dieu déciderait demain matin que je suis capable de bâtir une maison, eh bien, je serais capable de bâtir une maison. Malgré une scolarité peut-être déficiente, si Dieu décide qu'il va te donner la capacité d'étudier, d'apprendre et de transmettre, eh bien, Dieu est capable de le faire. On regarde dans Genèse, chapitre 35, verset, je vous lis rapidement, 31 à 33, où Dieu parle et va dire, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, c'est pas Genèse, c'est Exode, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver des pierres enchâssées, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dieu est en train de qualifier des gens pour construire, ici je vais corriger ma propre note, pour construire le tabernacle et ainsi de suite. En Israël, Dieu qualifiait même des gens pour gouverner. Les juges en Israël, l'Esprit tombait sur un homme qui devenait juge et Dieu le rendait apte à la gouvernance. La même chose, et je le crois sincèrement, que quelqu'un ne s'improvise pas pasteur. Il ne peut pas décider, oui, je crois que j'ai assez étudié, je pense que je suis bon pour être pasteur. Il y en a qui le font. Ce n'est pas à moi à calculer leur propre ministère, mais je crois que ça prend un appel. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui qualifie. Et je veux mettre ces choses-là bien en place ici. Si vous tournez dans Juges, chapitre 3, verset 10, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui et il devint juge en Israël. Il partit pour la guerre et l'Éternel livra entre ses mains Kurchan, Rephadim, roi de Mésopotamie. Sa main fut puissante contre Kurchan et Rephatim. De la même façon, Dieu a donné à Samson aussi une force exceptionnelle. Vous le trouvez dans Juges, chapitre 14, verset 6. Et ces choses-là ont toutes différentes facettes que je ne veux pas aborder en profondeur. Je suis juste en train de vous donner l'idée de ce que les apôtres vont recevoir dans les prochains versets. Dieu donne, qualifie autant Manuel de sagesse, d'intelligence pour gouverner, autant comme il peut donner de la force physique. Tout ça par son esprit. Mais aujourd'hui, sous la dispensation où nous vivons maintenant, l'Esprit de Dieu agit d'une certaine façon. Et c'est ce qu'on va commencer à regarder. Vers la période qu'on appelle dite des prophètes, Dieu a qualifié des rois. Vous trouvez ça dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 3 et les suivants, on ne le prendra pas. L'Esprit était aussi, et vous le comprendrez, l'Esprit de Dieu était aussi la source de messages prophétiques. Les prophètes ne parlaient pas de leur propre chef, mais parlaient par la source qui était l'Esprit, le Saint-Esprit ou l'Esprit de l'Éternel qui parlait, qui donnait des instructions. Vous le pouvez trouver, selon, on va le prendre dans Michée au chapitre 3 et on prendra le verset 8. On pourra prendre beaucoup de versets, mais on va se contenter de celui-là. Il est très éloquent, là. Où Michée va dire, « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Michée dit, « Je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. » De l'Esprit de Dieu, ce qu'on pourrait qualifier du Saint-Esprit. D'accord? Et comme je vous ai dit, vers la période de l'Ancien Testament, Joël va faire une prophétie très pointue. Il va parler dans les derniers jours que Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Là, je vous ai donné, je vous ai fait un peu avancer dans le sujet de ce soir. Il me reste encore tout de même du temps. Dans le sujet de ce soir, assez rapidement, je n'ai pas pris toute la mécanique parce que ce n'est pas le but. On veut rester vraiment focusé sur les actes des apôtres. Mais quand je vous ai dit, on va prendre la baptême du Saint-Esprit d'une façon différente. On va prendre le baptême du Saint-Esprit sous le rapport de la qualification, sous le rapport d'une mission à remplir qui donne l'aptitude à remplir cette mission-là, et non pas sur la puissance qui fait qu'on tombe par terre ou qu'on acquiert des dons. Ces choses-là sont tout à fait valables, mais je veux plus vous donner une portion académique, une portion avec laquelle on peut voir comment les apôtres ont reçu, intégré, mis en pratique le don qu'ils venaient de recevoir et quelle assistance l'Esprit de Christ ou le Saint-Esprit leur a donné. Donc, dans Joël, chapitre 2, versets 28 et 29, vous pourrez aller le lire, c'est connu, on ne prendra pas le temps ici de le lire. Vous allez le voir, c'est connu, ça c'est l'exemple parfait d'une prophétie double, qui a eu un double accomplissement dans le temps, c'est-à-dire un accomplissement premier où Joël va dire que dans les derniers jours, dans les derniers temps, Dieu va répandre de son esprit, pas d'une autre partie de sa personne, mais de son esprit, l'esprit de l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Là, il donne des qualificatifs qui viennent avec ça. Et il va dire, et à la fin, c'est là la prophétie double. Il dit, le soleil va s'obscurcir, bien sûr. Ça va arriver à la fin des temps. Une prophétie double qui trouve un accomplissement premier d'une première phase et qui trouve un accomplissement complet dans une deuxième phase, ici à plus de 2000 ans éloigné dans le temps le premier événement l'un de l'autre. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre va s'en servir lors de son discours. Donc, l'œuvre de la prophétie de Joël qui va s'accomplir ici, l'œuvre de la prophétie qui va s'accomplir dans Actes des Apôtres. La parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, nous dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les choses vont se produire. Donc, on trouve dans l'Ancien Testament, je récapitule rapidement, trois fonctions importantes de l'Esprit de Dieu. Première fonction, la puissance en relation avec l'existence physique de la création dans Genèse, qu'on a vu, l'Esprit qui est au-dessus des eaux. Deuxièmement, les dons de Dieu pour qualifier les dirigeants politiques d'Israël à leur tâche et les prophètes pour annoncer au peuple ce qui doit venir ou la façon de se conduire. Les prophètes avaient une double fonction qu'on ne développera pas non plus parce que ce n'est pas notre thème. Et troisièmement, le don de Dieu pour qualifier aussi les prophètes pour diverses miracles, pour des miracles soit sur la nature ou des miracles pour la guérison, si on pense à Élisée avec Naaman, si on pense à Moïse qui était prophète avec la mère morte, mais toujours avec l'assistance de l'Esprit de Dieu. D'accord? Donc, on retrouve cela aussi dans la création du corps de Jésus à sa naissance. Marie était une mère porteuse, soyons clairs. Comme on l'a vu, je voulais vous cerner un peu qu'est-ce que les apôtres ont reçu dans Actes. Ils n'ont pas reçu une affaire juste qui était le fun. Ils n'ont pas reçu quelque chose qui devait tout simplement avoir comme fonction de parler de nouvelles langues ou d'avoir une manifestation ou un tremblement ou quoi que ce soit d'autre. La fonction première, elle était donnée pour une mission claire. Aller par toutes les nations faire des disciples avec l'assistance de l'Esprit ou du Saint-Esprit pour donner l'impulsion vers l'avant. Tournez maintenant dans Actes. On est rendu au chapitre 2, versets 1 à 4. Le Seigneur avait dit, « Allez attendre ce que je vous ai promis. Allez attendre le baptême du Saint-Esprit. » Ils ont été à la chambre haute, ils ont persévéré. Et bon, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, nous dit le verset 1 du chapitre 2 des Actes. « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux ou d'un vent violent, tout dépendant de la version que vous avez. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, le terme qui est employé ici, remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ici, la venue du Saint-Esprit, et je vous parle, on ne parle pas d'expérience personnelle, je ne suis pas ici pour... On parle d'un enseignement, tout simplement, voire même un peu factuel, OK? Ici, la venue du Saint-Esprit s'accompagne d'un phénomène audible et d'un phénomène visible. Les disciples entendent un bruit comme celui d'un vent. Et ils ont pu sûrement faire référence à des paroles que Jésus leur avait dites, comme quand il a soufflé sur eux puis il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et de la même façon, quand il a dit « Le vent souffle où il veut », vous en entendez le bruit, vous ne savez ni où il vient, ni où il va. Il y en est ainsi d'un homme qui est né de l'Esprit. Ils ont pu sûrement faire une connexion. Le vent dont on parle ici symbolise l'esprit qui vient. Et c'est pour ça que le terme qui est employé est important. Il y a quelqu'un qui me disait une fois, « Oui, mais c'est quand Jésus a soufflé sur eux qu'ils ont reçu l'esprit, ou c'est dans Actes des apôtres? » J'ai dit, le terme dans Actes des apôtres qui est employé, c'est le terme « rempli ». Vous savez, j'ai un verre ici. Mon verre, il est assez plein. Mais il n'est pas rempli à déborder, parce que j'en bois depuis tantôt. Il n'est pas rempli à déborder. Rempli, c'est rempli. D'accord? Tenez bien ça en tête. Donc, comme je vous disais dans Jean chapitre 3, verset 8, où Jésus dit « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu sais ni d'où il vient ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et dans Jean, chapitre 20, verset 22, avant que Jésus aille à la croix, la parole de Dieu nous dit, « Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Jésus ne nous aurait pas dit, « Recevez le Saint-Esprit et je vous l'enverrai dans 50 jours. » OK? Mais ces gens-là avaient besoin de la puissance de l'Esprit. Ce phénomène-là dont on parle, visible ou semblable à des langues de feu, se sont posés sur chacun d'eux. Le feu qui est généralement dans la Bible, un peu partout, signification de jugement, trouve ici signification de purification et signification d'un signe annonciateur de réception d'une puissance. D'accord? Les langues soulignent le rôle de l'Esprit de Dieu pour transmettre la parole de Dieu. Je vous ai dit que ce serait factuel. Les langues qui leur apparurent semblables à des langues de feu sont ici, jouent le rôle où l'Esprit de Dieu va les qualifier pour transmettre la parole de Dieu. Donc, la réception du Saint-Esprit au verset 4 emploie le terme rempli, désigné pour la réception du Saint-Esprit. Quelque chose, naturellement, qui est rempli, bien, il est rempli. Si on en met un tiers de goutte de plus, eh bien, il y a du gaspillage, ça déborde. Et Dieu nous remplit, nous qualifie en nous remplissant. Et quand le taux baisse comme ça, comme dans mon verre, Dieu peut ajouter. Je vous dis juste ça au besoin. Et c'est la seule chose que je voulais vous dire. Concernant ça, je vous avais dit que ce serait factuel et ça l'était. Soyons clairs. Donc, on continue notre lecture dans Actes chapitre 2, versets 5 à 13. On va voir maintenant la mission. Ils sont remplis du Saint-Esprit et on va voir la mission qui s'y rattache. Verset 5 du chapitre 2. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes et la Mythe, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Probablement ceux qui ne parlaient pas aucune de ces langues-là. Ici, retenez bien quelque chose qu'on va reprendre plus tard dans une autre étude. Là. On n'aura pas le temps ce soir. Tous les noms qui sont nommés ici de peuple, retenez-le bien, soulignez-le, prenez-le en note, parce que vous allez voir que ces gens-là ont servi à la conversion. Vous allez voir que quand Paul arrive à des endroits, il y a déjà des gens qui ont été préparés. Ces gens-là, ils ont entendu, et la parole de Dieu ne nous donne pas d'informations inutiles. Chaque mot dans votre Bible a été soigneusement choisi par l'Esprit de Dieu pour nous être transmis, pour que nous en tirions le maximum d'informations. Et ici, si on regarde bien, on parle de personnes qui venaient de Parthes, Mèdes, Élamites, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Pont, Asie, Phrygie, Pamphylie, l'Égypte, la Libye, Cyrène, Rome, Crétois, Arabe. On nous parle d'une quinzaine de peuples de différentes nations qui assistent à cela. D'accord? Le témoignage maintenant. Et c'est sur ça que je veux un peu plus asseoir la dernière partie de mon enseignement. L'esprit qui est donné n'est pas là que pour votre usage personnel. C'est là pour remplir un rôle, une mission. Le Saint-Esprit qui vous a été donné est là pour servir la cause de Christ, et non pas vous servir vous. Servir la cause de Christ. Et c'est l'emphase. C'est pour ça que je vous ai expliqué les différentes facettes dans l'Ancien Testament et ainsi de suite. Si vous voyez les différentes facettes, comment l'Esprit de l'Éternel ou le Saint-Esprit agissait dans ces temps-là, c'était toujours en but de l'œuvre de Dieu. C'était toujours en action pour faire avancer Israël, en action pour corriger Israël. Et ici, on voit, lors de la réception maintenant, plus sur un individu, mais à grande échelle, prophétie Joël accomplie, c'est donné pour une mission qui était humainement impossible, mais que Dieu rendait tout à fait possible de manière ou de façon divine. Cette mission-là était tout à fait possible parce que c'est Dieu qui qualifie. Hein? Je vous ai dit tantôt, il qualifiait des gens pour même travailler les différents matériaux et ainsi de suite, donner une force extraordinaire à Samson, donner de la sagesse, de l'intelligence à des rois. Eh bien, dans la dispensation dans laquelle vous vivez, le rôle de l'Esprit de Christ en nous, le rôle du Saint-Esprit en nous, c'est de faire avancer l'Église, c'est de faire avancer l'œuvre de Dieu avant le retour du Seigneur. Et le témoignage qui est donné par les apôtres, c'est que pendant la fête de la Pentecôte à Jérusalem, où il affluait plein de personnes, Jérusalem était pleine de personnes qui venaient de partout. Et Dieu a choisi ce moment-là pour remplir du Saint-Esprit les apôtres. Et là, la table était mise pour une bonne campagne d'évangélisation. La table était mise pour la première campagne d'évangélisation. Et c'est là que la parole du Seigneur s'est accomplie, où Jésus dit, personne ne peut venir à moi si l'Esprit ne l'attire. Donc, ce bruit-là qui s'est fait a attiré les foules. Ce bruit-là, c'était quoi? C'était le Saint-Esprit, a attiré les foules, a rempli les apôtres. C'est lui. On peut y voir un accomplissement direct de ce que Jésus a déclaré. Personne ne peut venir s'il n'est pas attiré. Et ici, c'est exactement une des fonctions à laquelle l'Esprit a servi à ce moment-là. Lors de la réception par les apôtres du Saint-Esprit, ils n'ont pas que reçu le Saint-Esprit. Il y a eu un bruit qui s'est fait. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait accourir des gens. Ils sont venus voir qu'est-ce qui se passait dans ce coin-là. Et en venant voir, en ayant cet attroupement-là attiré par la manifestation de l'Esprit, première campagne d'évangélisation, orchestrée par le Saint-Esprit lui-même, orchestrée par le Seigneur lui-même, qui a qualifié en même temps ces hommes-là pour donner le message. Ces gens-là, qui étaient tous à Jérusalem en train de faire différentes activités, ont été détournés de leur activité par l'Esprit de Dieu, par ce qui venait de se produire, par le bruit. C'est l'Esprit qui a attiré ces gens-là. Les pèlerins, on peut dire ça comme ça, de la Pentecôte, entendirent le message dans leur propre langue. Ici, on ne s'arrêtera pas sur la nature du miracle ou sur le parler en langue, mais sur la nature du message. Je ne veux pas m'attarder sur la nature du miracle. On a entendu plein de prédications. Puis ici, on traite un livre. On ne traite pas un sujet. On traite un livre. Donc, je ne veux pas m'arrêter sur la nature du miracle. Je veux m'arrêter sur la nature maintenant, pour ce qui me reste de temps, la nature du message. Parce que l'Église est encore sur Terre. On a un message à donner. Et le message qu'on a à donner, on peut trouver un point de référence ici, un modus, une façon d'opérer, une façon de faire, qui, sûr, diffère du groupe d'individus à un autre. C'est sûr, si tu t'adresses à un groupe d'individus qui est déjà, comme ces gens-là, là pour la Pentecôte, ces gens-là avaient déjà une certaine connaissance, étaient déjà des adorateurs, n'étaient pas là pour rien. Et Pierre va donner un message concordant à son auditoire. Si on allait à prêcher, admettons, devant, mettons, des médecins, eh bien, la façon dont je conseillerais, oui, il faut que le message de la repentance arrive, mais pour prendre ces gens-là puis les amener à écouter, eh bien, il faut leur donner une matière avec laquelle ils vont porter un intérêt. C'est pour ça que je dis souvent aux enfants de Dieu, Je ne vous dis pas d'aller tous étudier les sciences profondes. Je suis en train de vous dire d'avoir une bonne connaissance générale de l'astronomie, une bonne connaissance générale des sciences appliquées, une bonne connaissance générale de l'âme humaine, et ainsi de suite, peut servir la cause de Christ. Bien utilisé. Ici, on va s'attarder non sur la nature du miracle, mais sur la nature du message, comme je vous ai dit. Donc, on prend la nature du message. Actes, chapitre 2, versets 14 à 36, et je vous fais une longue lecture pour prendre tout mon temps pour le restant. Longue lecture. Alors, Pierre, verset 14, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlait. Et là, on va prendre tout le message de Pierre. Et leur parla en ces termes. Hommes justes, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit ou prophétisé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai, Dieu du sang dans l'Ancien Testament, il ne dit pas un autre esprit, je répandrai de mon esprit. C'était l'esprit de l'Éternel. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, les personnes âgées, c'est pour ça, nous autres, ce qu'on a, c'est des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai, là, c'était plus sur une personne qu'il fallait aller consulter, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, qui fait suite à la prophétie de Joël, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Exemple de la prophétie double que je vous donnais. Accomplissement, Pierre s'en sert ici, il sert de l'écriture qui était connue alors, c'est-à-dire de Joël. Et c'est pour ça que je dis souvent aux enfants de Dieu, on a peu de puissance en Dieu. La parole de Dieu est toute suffisante à elle-même. Ne soyez pas timide de donner des versets bibliques. Donnez-en abondamment. Même quand vous vous adressez à des gens qui n'ont peut-être pas la connaissance que vous avez. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est suffisante à elle-même et elle est puissante en elle-même pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Soyons clairs. Donc, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, le discours commence maintenant. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous tous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Donc, il cite un psaume, je me rappelle bien le psaume 106, je voyais le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Il s'est servi la date dans son premier message deux fois de Joël et de la parole de David. D'accord? Homme, frère, verset 29. Qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Il leur donne une évidence. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est à la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude. » On voit qu'il parle avec aplomb. Il dit pas, ben, peut-être que la Bible est vraie. Avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Prédication de Pierre. Le modus, le schéma de la prédication de Pierre. Pierre explique d'abord que le courage des apôtres ne vient pas de leur consommation d'alcool, soyons clairs, ne vient d'autre chose que de Dieu. Les disciples eux-mêmes avaient craint lorsque Jésus était sur terre, quand ils sont venus le prendre dans le jardin, tous se sont enfuis. Et même Pierre, par crainte, renie Jésus. Pierre est lui le premier qui prend la parole. Il y a des raisons, hein, quand la parole de Dieu, Jésus va dire à Pierre, quand tu seras revenu, ou d'autres versions de la Bible vont dire dans Jean converti, affermis tes frères, et par cela, ça ne fait pas de Pierre le premier pape, là, soyons clairs, mais ça fait de lui quelqu'un qui va remplir exactement ce que Jésus lui a dit, par exemple. Donc, sa prédication commence par dire notre condition à nous, c'est ça. Et deuxième chose, la prédication publique qui est faite s'appuie sur la parole ou la connaissance de ses auditeurs. Il va leur citer Joël. Il va dire, c'est ici. Si vous voulez avoir un point de convergence pour vous reconnaître, si vous voulez avoir un point d'ancrage pour savoir si ce qui se passe là vient de Dieu, il dit, ce qui se réalise là, c'est en partie, en tout cas, la prophétie de Joël, en partie parce que c'est une prophétie double qui va trouver son accomplissement total que dans les 7 années de tribulation, soyons clairs, mais la première partie trouvait son accomplissement là. Et Pierre va prendre la parole de Dieu, va aller avec la connaissance de ses auditeurs pour les amener plus loin sur le chemin. Pierre va citer David, que eux connaissaient aussi, et il va le mettre en perspective avec le message qu'il va donner. C'est-à-dire, suivant ça, il va parler de Jésus. Mais il va commencer par dire à ses auditeurs, regardez ce qui se passe là, est biblique. Je vais vous dire ça comme ça à vous là, qui m'écoutez ce soir. C'est dans les normes des attentes que vous auriez dû avoir, vous, en lisant la Bible. Ensuite de ça, il va citer David pour rétablir que David ne parlait pas de lui-même, mais il parlait du Christ. Début du message, le cœur du message, pense de ça, le message du message, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord? Donc, dans les versets 19 et 20, l'apôtre Pierre nous parle du jour du Seigneur, nous en parle de façon à ouvrir à ses auditeurs le temps de la grâce, c'est-à-dire que dans ces derniers temps, il évoquait l'intervention de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, dans l'histoire de l'humanité, là, à la Pentecôte. Cette première période qu'on voit ici, pendant laquelle Dieu, par la réception du Saint-Esprit, par son œuvre à la croix, par l'avancement de l'Église, humilie et brise le royaume de Satan. Par quoi? Par la prédication de la croix, qui devrait rester le centre du message. C'est-à-dire, on peut parler avec quelqu'un de science. Hein? Je m'apprête à aller visiter quelqu'un qui travaille dans un domaine très pointu. On m'a invité, on va se faire quelquefois avec distanciation sociale à l'extérieur. Et cette personne-là a beaucoup de questions et je me prépare à aller voir cette personne-là. Et c'est sûr que je ne dirai pas tout de suite, Jésus est mort à la croix pour toi, mais ça va finir comme ça. Ça va finir comme ça. Quand je vais avoir abordé son champ de compétences, je vais l'amener un peu plus loin du voulant. D'accord? Et donc, par la prédication de l'Église, et là, je vous parle de vous et moi. Là, on voit avec Pierre, mais ça nous concerne vous et moi. Par la prédication de la croix, par la prédication de la résurrection de Christ qui donne la victoire sur les ténèbres, Pierre emploie on peut dire, cette stratégie-là pour ancrer le message. Et des versets 22 à 24, le miracle que Jésus a accompli, bien, les miracles que Jésus a accomplis étaient en fait, il lui dit, vous vous souvenez, tous les miracles qui se sont passés, bien, c'est une approbation de Dieu, selon ce que Pierre affirme. Et il dit, Dieu a approuvé son serviteur. Il l'a approuvé en faisant un miracle, et il l'a approuvé par la résurrection d'entre les morts. Puis il dit, David était prophète. David, il ne parlait pas de lui-même. David faisait référence à votre temps. Et pour soutenir cela, dans les versets 25 à 31, il prend la résurrection qui se base en fait sur les déclarations de David, qui sont dans, je vous ai dit tantôt, le psaume 16, les versets 8 à 11. Et ici, l'apôtre prend le psaume et il dit, ben, c'est impossible que ce soit applicable à David. Il dit, parce que David est mort. Il dit que son sépulcre est encore là et qu'on sait qu'il est mort, qu'il y a eu des obsèques en bonne et due forme. Donc, il ne va pas parler de lui-même. Donc, là, il fait résonner ses auditeurs. Il fait résonner ses auditeurs pour les amener à une compréhension de l'accomplissement de la parole. Pour faire comprendre à ses auditeurs dans quel temps ils vivent. Quand j'ai donné le cours sur l'Apocalypse, le but, c'était de donner des messages, oui, de l'enseignement, oui, mais de faire comprendre aussi aux personnes dans quelle époque ils se trouvaient. Je ne vous dis pas, et je ne suis pas en train de vous dire qu'on est dans les 7 années de tribulation. Je suis en train de vous dire qu'on avance plus dans le temps. Hier, j'avais une discussion avec mon épouse et je lui expliquais un peu les différentes gouvernances dans le monde, comment est-ce qu'ils sont en train de resserrer certaines choses et qui ça va servir pour, dans le futur, pour avoir une gouvernance. Plus invasive dans nos vies, disons ça comme ça. Et j'expliquais avant, ma femme me disait, ah, je n'avais pas vu ça. Pas. Je dis, ces choses-là, ils sont là, ils sont acceptées, là. Ils sont totalement acceptées. Soyons clairs, la connaissance devrait nous donner la vision. Pierre, ici, va lui donner une connaissance pour qu'il y ait une vision de ce qu'ils ont à faire. Soyons bien, bien clairs. Pierre leur dit en fait que David avait annoncé une prophétie. Puis que dans cette prophétie-là, le Christ qui était de la descendance de David devait ressusciter. Pierre va passer après ça son témoignage personnel, les versets 32 et 33. Maintenant, Pierre passe au témoignage personnel de ce qu'ils ont vu de leurs yeux. Tu sais, quand tu rends ton propre témoignage, là, ça doit faire partie de l'annonce qu'on fait. Hein, on peut dire à quelqu'un, Dieu peut changer ta vie, il le fait avec la mienne. Dieu peut changer tes orientations, il le fait avec les miennes. Dieu peut changer ton caractère, il le fait avec le mien. Il reste encore bien du travail à faire, là. Il a commencé à le faire. Dieu a commencé à régner sur moi. Soyons clairs. Dieu a changé mes vues, mes visions, que ce soit pour ma retraite, que ce soit pour les choses que je voulais dans la vie, et ainsi de suite. Si Dieu le fait avec moi, il peut le faire avec toi. Donc, Pierre va passer au témoignage personnel. Il va parler de ce que leurs yeux ont vu, des miracles qu'ils ont vus, qu'ils ont vu Jésus ressuscité aussi, qu'ils ont vu l'accomplissement de la promesse, que le Saint-Esprit est donné maintenant, qui est l'accomplissement de ce qu'il nous a parlé, et il va relier ça tout ensemble. Et dans les versets 34 à 36, je vous donne le schéma du message parce que c'est important, parce que c'est ce schéma-là qu'on doit utiliser. Il y a des choses qui vont changer, tout dépendant à qui on s'adresse, mais ce schéma-là est efficace. Ce schéma-là est efficace parce que Dieu connaît bien la nature humaine et le mode d'instruction qu'il nous donne ici fonctionne. Croyez-moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Je parlais avec un pasteur dernièrement qui me parlait comment l'évangélisation était difficile de nos jours. Il dit, tu parles à des jeunes personnes, puis tu leur parles de Jésus, puis il y en a qui ne savent même pas qui est Jésus. Oui, effectivement, on part de plus loin. Mais par contre, on a un terrain vierge. Je faisais ça pour l'encourager. Je dis, quand on part avec quelqu'un qu'il y a un arrière-plan religieux, c'est faisable. Tu as un terrain haut pour travailler, mais par contre, il y a des embûches parce qu'il y a des conceptions qui sont faites. Quand tu pars avec un terrain vierge, il n'y a souvent pas de conception. C'est un autre type de travail, mais le message doit rester dans son schéma, si je peux dire comme ça. Et vous allez voir que Paul va l'utiliser régulièrement. Doit rester, somme toute, dans le même, je ne dis pas exactement dans le même ordre, mais exactement dans la même essence. D'accord? Exactement dans la même essence. Et dans les versets 34 à 36, il va user le moyen par lequel ils peuvent être sauvés. Il va dire, les hommes ont rejeté le Messie. Pourquoi? Il dit parce que le Messie n'était pas conforme à ce que vous attendiez. Le Messie n'était pas conforme à leur raisonnement. Combien de personnes m'ont déjà dit à moi que j'accepte Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, je suis sauvé. Je n'ai rien à faire. Je n'ai pas de bonne œuvre à faire, je n'ai pas d'argent à donner, je n'ai rien à faire. C'est ça. Accepter Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, pour l'instant, tu n'as rien à faire. C'est sûr que Dieu ne veut pas de quelqu'un qui est stagnant sur place, mais le salut est aussi simple que ça. Quelqu'un sur un lit de mort qui ne peut rien faire, que tu visites, peut accepter Jésus comme Seigneur Sauveur personnel et être aussi sauvé que la personne qui a œuvré pendant 30 ans. Et là, généralement, les gens bondissent sur leur banc. On dit, ben voyons donc, c'est injuste. Et ainsi, il faut leur expliquer. Non, le salut est une chose, les récompenses, c'est autre chose. Et souvent, quand tu expliques aux gens que le salut est par grâce, qu'il est gratuit, qu'il n'y a rien à produire pour le salut, de toute façon, on ne serait pas capable de produire ce qui est nécessaire au salut. Une des réponses qu'on nous donne, ben voyons donc, c'est même trop facile. C'est trop facile, mais ils ne le font pas. C'est trop facile, mais ils refusent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un raisonnement de bien implanté. Le raisonnement qui est implanté chez l'homme, l'homme religieux et l'homme non religieux, il faut produire quelque chose pour obtenir quelque chose. C'est l'essence même du mouvement de la vie sur la terre. Il faut produire quelque chose pour obtenir quelque chose, sinon on n'obtient rien. Jésus a dit, vous ne pouvez rien produire de suffisant pour votre salut. Donc, je dois descendre, prendre le corps d'un homme, souffrir à la croix pour tes péchés comme si c'était moi le pécheur, ressusciter pour ta justification et te remettre ma sainteté pour que tu puisses hériter la vie éternelle. Sinon, tu n'hérites pas la vie éternelle parce que tu ne pourrais jamais produire assez pour hériter la vie éternelle si on la met dans une balance avec tes mauvaises actions, tes mauvaises pensées, ton mauvais caractère. Et ainsi, on commence à faire une balance pesante. Là, hein? Nos actions ne pourraient jamais contrebalancer le poids de notre misère humaine. Personne ne m'entend ça et je le sais. Mais soyons bien, bien clairs. Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé Jésus pour souffrir la peine que tu et que je méritais, pour donner sa vie à ta et à ma place, à ressusciter pour offrir son propre sang pour ta et pour ma justification. Et c'est le message ici que Pierre va donner. Pierre, il va dire, le Messie que vous attendiez n'était pas selon votre conception, n'était pas selon ce que vous aviez imaginé. La conception juive d'un Messie était une conception gouvernementale d'un Messie. Et même aujourd'hui, la conception juive du Messie, c'est un Messie qui va leur donner une prééminence sur les autres peuples, de façon politique, de façon gouvernante. Et ils ne l'ont vu que comme ça, et pour une grande majorité d'entre eux, ne le voient encore que comme ça. C'est pour ça que quand l'Antéchrist va venir, il va les séduire. Il va les séduire parce qu'il va leur donner leur vision du Messie, leur vision qu'eux ont. Et faisons bien attention de ne pas avoir nos propres raisonnements du Messie, notre propre conception du Messie, de Jésus. La Bible ne s'accommode pas de nos conceptions personnelles, de nos raisonnements personnels. On doit prendre nos raisonnements et les soumettre à la parole. On doit prendre nos conceptions des choses et les soumettre à la Bible. Et non soumettre Dieu à nos conceptions, à nos raisonnements. Quand je dis souvent aux gens, faites attention, et je parle des fois à d'autres enfants de Dieu auxquels je vais dire, faites bien attention à prendre la parole de Dieu et à l'amener à dire ce que vous voulez qu'elle dise, à la tronquer ou à l'extrapoler pour qu'elle vous dise ce que vous voulez entendre. Vous savez, dans les différentes relations d'aide que j'ai à faire dans mon propre ministère, il vient qu'on a un peu d'expérience. On sait reconnaître des gens qui viennent juste pour avoir un assentiment, pour dire « T'es-tu d'accord? » Mais en fait, comme j'ai déjà dit une fois à quelqu'un, que moi je sois d'accord, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est ce que la Bible dit sur le sujet que tu m'amènes qui est important. C'est ce que la Bible enseigne, que ce soit les relations homme-femme, que ce soit en affaires, que ce soit avec nos enfants, que ce soit dans notre gestion du temps, que ce soit dans notre amour, notre affection ou notre désaffection pour l'Église, que ce soit dans la façon de gérer une Église, que ce soit dans la façon de gérer même ce temps-là de pandémie. On doit être soumis à la parole de Dieu. On doit être soumis à la parole de Dieu et non à nos conceptions propres. Et non à la façon dont nous, on ferait les affaires. Vous savez, il y a des choses que la Bible dit qui m'arrangent beaucoup. Hein? Puis il y a des choses que la Bible dit qui me dérangent beaucoup parce que ça me heurte, parce que c'est pas comme ça que je l'aurais fait. À moins que je pense que je ferais mieux que Dieu. J'en doute beaucoup. Je fais plus qu'en douter. Je suis certain que je ferais pas mieux que lui. Donc, soyons bien, bien clairs. Notre raisonnement sur Dieu, notre conception sur Dieu. La Bible ne souffre pas de ma conception et de mon raisonnement. Pierre leur cite ce qu'eux maintenant ne veulent pas entendre. Vous avez crucifié Jésus. Vous avez crucifié le juste. La prochaine étape qui va leur être donnée. Eux attendant un homme de guerre, un homme politique qui mettrait les Romains à la porte, la conception qu'ils avaient de Christ était erroné, mais quand même que leur conception était erronée, Jésus est venu quand même comme le Messie souffrant, comme le Messie qui vient pour donner sa vie pour les brebis, comme le Messie qui vient pour nous donner la repentance et le pardon des péchés, et non pas comme un homme politique, et non pas comme eux pensaient. Quand le Messie va venir, on met les Romains à la porte. On va devenir notre propre gouvernement, on va même gouverner les nations. La première venue de Christ n'a pas souffert de leur conception. La façon dont on traite la parole de Dieu, la façon dont on absorbe la parole de Dieu. Ici, je vous ai donné, et je vais m'arrêter ici, avant le Messie régnant, il y avait un Messie souffrant. Eux n'ont pas voulu voir, même s'ils pouvaient regarder dans Ésaïe, un Messie souffrant, n'ont pas voulu voir cette facette-là du Messie. Ils voulaient voir tout simplement le Messie régnant. Et le Messie souffrant s'est présenté avant. Ils ont rejeté le Messie. Ce qui accomplissait tout à fait le plan de Dieu, là. Mais Pierre se devait de leur dire la vérité. Et la vérité pouvait les amener à la repentance. Quand on prêche maintenant, quand on donne notre témoignage, quand on enseigne la parole de Dieu, nous ne devons pas négliger de donner la parole telle qu'elle est, sous prétexte que nos auditeurs sont plus sensibles, plus frileux. On doit le faire avec amour. On ne parle pas de le faire en frappant les gens. On doit le faire avec amour, le faire avec toute la patience et entourer les gens comme il se doit, mais on doit leur dire la vérité. Il y a déjà des gens qui m'ont dit « Non, non, je ne peux pas dire à mon père ou à ma mère qu'ils sont des pécheurs. » Je disais, pourtant, ils le sont. Cette vérité-là, il faut qu'elle soit dite. L'évangile qu'on annonce n'est pas un évangile à l'eau de rose. C'est un évangile qui va demander une partie par son auditeur qui l'entend, qui peut faire, et là je le dis ici, mal. Tu dis à quelqu'un que c'est un pécheur, je ne crois pas que ça va lui faire plaisir. Tu dis à quelqu'un que s'il meurt dans cet état-là, il s'en va en enfer. Je ne pense pas que ça fasse son affaire. Je ne pense pas qu'il va te répondre, « Ouais, je m'en vais en enfer. » Intéressant. Je crois qu'il va dire, « Non, non, moi, je suis une bonne personne, je ne m'en vais pas en enfer. L'enfer, c'est pour le meurtrier. Moi, je ne vais pas en enfer. » Mais cette vérité-là, intrinsèque de la parole de Dieu, qu'on doit transmettre, pour amener les gens à la repentance. C'est exactement le schéma que Pierre a suivi avec ses auditeurs. Vous reprendrez l'étude qu'on vient de prendre. On termine maintenant. Pierre a suivi un schéma bien particulier où il a montré à ses auditeurs, à cause qu'il avait ce type d'auditeur-là, il a montré à ses auditeurs, avec cet auditeur-là, comment ça s'apparentait à la parole, vous êtes nus à cause que vous croyez à la parole, regardez la parole s'accomplit, regardez ce que vous avez fait, puis regardez ce que vous avez à faire. Moi, à un moment donné, j'ai eu à parler par personne entreposée, entremise, mais j'ai eu à parler à un professeur, c'était une étudiante qu'il avait, lui avait un doctorat, elle était à la maîtrise, et ce monsieur-là l'a vu lire une Bible, et il lui a dit, tu lis ce vieux livre-là? Voyons donc, des personnes instruites comme nous autres, qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas si c'est les termes exacts qu'un employé, mais c'est un peu ce que ça voulait dire. Et à un moment donné, j'ai eu une conversation avec lui par l'entremise. Ce monsieur-là, qui enseignait l'économie, c'est un docteur en économie. À un moment donné, il a dit si Dieu est bon. Et là, j'ai engouffré là, moi. Okay? Et les questions qu'il posait étaient légitimes avec la connaissance qu'il lui avait. Et pour amener l'auditeur à ce que je voulais, j'ai commencé par dire vous savez, monsieur, vous n'êtes qu'un pécheur, repentez-vous. Non, j'ai entré où il m'amenait. Hein, il m'amenait en économie. je suis pas un docteur en économie, là, mais la parole de Dieu va donner la sagesse, l'intelligence. Dans les choses simples, là, on parle. À un moment donné, il disait, mais si Dieu est bon, pourquoi que c'est plein de personnes qui crèvent de faim? Si Dieu est bon, pourquoi qu'il y a des guerres comme ça? Et j'ai répondu. Je commençais par lui dire, écoutez, je disais à mon étudiante, tu vas lui dire telle chose. Et tu vas lui dire telle chose. Et je lui ai dit, à un moment donné, dans cette conversation interposée, je lui ai dit, si un pays manque de nourriture et mon pays est dans l'abondance, qui a dressé les frontières? Dieu ou les hommes? Qui a fait qu'un pays n'a rien à manger et que moi, mon gouvernement, dans les années 80, à cause qu'il y avait eu surproduction, a envoyé un bateau, un tanker plein de blé, le vider dans la mer, en tout cas dans le temps que j'avais lu. Pourquoi on donne des quotas de lait? Qu'est-ce qu'on fait avec le lait? Un coup que la vache a atteint son quota, monsieur, est-ce qu'on met la switch à off puis que la vache arrête de produire? Posez-vous la question. On vend des quotas, qu'est-ce qu'on fait avec les surplus de ces quotas-là? Il savait exactement de quoi je lui parlais. Je dis, Dieu ou les hommes? Dieu ou les hommes? Puis à chaque question, je disais Dieu ou les hommes? J'étais obligé de me répondre les hommes. Mais à la fin, je dis, si c'est les hommes, pourquoi vous accusez Dieu? Si c'est les hommes qui font ça, la terre peut nourrir tout le monde. Si c'est ça, pourquoi vous accusez Dieu? Si l'argent est mal distribué, Dieu ou les hommes, ben pourquoi vous accusez Dieu? Si c'est tous les hommes, tout ce qu'on parle là, c'est tous les hommes. Je ne dis pas que ce monsieur-là va se converser, mais ce monsieur-là demande une Bible tout de même. Soyons clairs. Donc, tout dépendant de l'auditeur, on s'adapte, puis ensuite, on l'amène au salut par grâce. Mais la repentance doit être donnée telle qu'elle. Et pas selon les conceptions qu'on a de la repentance, pas selon la conception de nos auditeurs dans laquelle on annonce la parole de Dieu, mais le schéma qu'on a vu là, du premier message, vous allez voir qu'il est repris en partie ou en totalité par Paul tout au long. Parce que nous en nous-mêmes, nous n'avons pas de puissance. L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit nous a été donné pour accomplir une mission. Donc, prêchons la parole avec la parole, adaptant certaines choses à nos auditeurs sans omettre ou ménager nos auditeurs pour ne pas donner l'essence pour laquelle on prêche. Donc, c'était l'enseignement pour aujourd'hui. On donne un message. On le donne comme il se doit, en s'adaptant à l'auditoire. Ceci étant dit, on va terminer ici. Je prie pour vous et la semaine prochaine, on va regarder la réaction des gens. Comment les gens ont réagi. Parce que l'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement. Il y a eu une réaction de ces gens-là. Et on va regarder quel type de... Pas que tout le monde a eu, mais quel type de réaction l'Esprit de Dieu recherche. L'Esprit de Dieu recherche. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps d'enseignement qu'on a pris ensemble. Seigneur, que ta parole puisse s'ancrer profondément en nous. Les schémas, Seigneur, que nous donne ta parole, devrait être tenu en considération lors des différentes choses que nous faisons. Les enseignements de ta parole devraient teinter les décisions, teinter les conversations, teinter notre raisonnement et notre façon de produire pour toi. Parce que de toute façon, à part la grande commission qui nous a été donnée au Dieu, eh bien, la vie sur cette terre n'a pas une utilité. Et je sais, Seigneur, que ça va peut-être déplaire une utilité très, très grande. Oui, on peut être confortable, oui, on peut jouir de la vie, tu ne nous en empêches pas du tout. Mais, Seigneur, on doit tenir en compte, Seigneur, qu'en tant que sauvé, la grande commission n'appartient pas aux pasteurs des églises. La grande commission nous appartient tous, tous et chacun. Donne-nous, Seigneur, d'être de bons témoins de cette commission-là que tu nous as donnée à rendre. Je remets ton peuple entre tes mains, Seigneur. Donne-lui une saine réflexion. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, on regarde, comme je vous l'ai dit, la réaction des auditeurs. Soyez bénis.